Bonsoir à tous pour ce retour de Quartier Libre. Je suis heureuse d'accueillir ce soir Gérard Mordillat, romancier, poète, cinéaste. Gérard, bonsoir. Vous avez une biographie longue comme le bras, on ne sait pas par où commencer. Vous êtes notamment le co-auteur de la grande série de la fin des années 90, Corpus Christi, que Arte avait diffusé. Vous êtes également l'auteur de nombreux romans, Mélancolie ouvrière, La Brigade du rire, et plus récemment, en début d'année, en janvier, je crois, d'un nouveau livre, Quartier de noblesse, consacré à vos racines ouvrières aux éditions du Sonneur. Je ne me trompe pas ?
Non, c'est ça. C'est une histoire assez drôle parce que c'est François Morel, l'acteur, qui m'a envoyé aux éditions du Sonneur en disant « Mais tu devrais faire quelque chose avec elle, puisque ce sont deux femmes qui s'occupent de ça. » Et donc, je les ai rencontrées. On a eu une discussion extrêmement sympathique. Je n'avais pas la moindre idée de quoi je pouvais parler. Je ne fonctionne pas du tout sur ce genre de choses. Et on s'est quittés bons amis. Et en partant, Valérie Millet, qui est l'éditrice, m'a offert le livre de Jack London qui donne son nom à la série, enfin à la collection, pardon, qui est Ce que la vie signifie pour moi. Et bon, je suis parti avec mon livre et dans le métro, j'ai commencé à lire Jack London. Et là, soudain, mon cœur s'est arrêté. Parce que Jack London explique au début que, né dans la classe ouvrière, il n'a eu qu'une ambition dans la vie, que de s'élever dans la société, de fréquenter les élites, de fréquenter le beau monde, etc. J'ai trouvé ça stupéfiant parce que je suis moi aussi né dans la classe ouvrière et s'il y a bien une idée qui ne m'a jamais traversé l'esprit, c'est bien celle-là, d'une quelconque élévation. D'ailleurs, par une raison tout à fait paradoxale, mais profonde, qui est que appartenant à la classe ouvrière, je ne voyais pas ce qu'il y avait de supérieur à la classe ouvrière, puisque si on écoute la célèbre injonction de Marx à transformer le monde, eh bien, qu'y a-t-il de plus grand que de vouloir transformer le monde ? Donc, j'ai su quoi écrire, j'ai écrit ça, et le principe de cette collection est de expliquer ce que la vie signifie pour soi à travers son expérience. Donc, j'ai repris ça. Et puis, bien à la fin, Jack London et moi, nous nous sommes réconciliés, puisque après son parcours, il avoue qu'il s'était trompé sur tout et que la seule chose vraie, c'est de faire la révolution.
Aux éditions du Sonneur, donc, pour ceux qui veulent le découvrir, mais il n'y a pas que ça dans votre année 2020. Il y a aussi, bien sûr, une grande série documentaire appelée « Travail, salaire, profit ». Que vous avez coécrite avec notre ami Bertrand Rothé, que je salue chaleureusement ce soir. Une série diffusée en 6 épisodes sur Arte, que l'on peut, je crois, je parle sous votre contrôle, se procurer sur le site d'Arte en ligne, en VOD ou en DVD. Une série, donc, Travail, salaire, profit, consacrée au néolibéralisme, où vous explorez les grands concepts de l'économie à travers toute une série d'entretiens avec de grands chercheurs internationaux, parmi lesquels David Graeber, Philippe Askenazy, Alain Supiot, Frédéric Lordon, Daniel Linhart et j'en passe, je crois qu'il y en a une trentaine. Bizarrement, ce n'est pas du tout la même liste que les économistes récemment reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, à savoir Daniel Cohen, Philippe Aguillon et Patrick Cartus. Visiblement, vous n'avez pas les mêmes copains que notre président, Gérard. Je vous ai bien sûr invité ce soir. Oui.
Oui, parce que nous ne sommes pas partis sur… On est parti des travaux de ces personnes, on n'est pas parti de leur représentation ou de leur représentativité, ça ne nous intéressait pas. Et donc, ça a été un long travail de préparation, de rencontre, de discussion pour arriver à justement avoir à la fois un éventail assez large de points de vue, d'analyse, de recherche sur les questions économiques, mais justement, et d'ailleurs ça en a surpris plus d'un, notamment dans la presse, il n'y avait pas là les habituels soi-disant économistes ou éditocrates qui font des leçons d'économie sans rien y connaître, parce qu'on se plaçait du côté de la réflexion, et je l'espère, et j'en suis certain, de l'intelligence. Donc c'était un travail critique au sens pardon, au sens kantien, quoi, de déterminer la chose réelle, d'essayer de comprendre ce qu'était réellement l'économie, et puis surtout de bien faire saisir au public qu'il y a tout un discours médiatique qui dit l'économie, de toute façon c'est très compliqué, vous n'y comprenez rien, vous inquiétez pas, il y a des experts qui vont vous expliquer tout ça. Ce qui est évidemment de la pure propagande, parce que les questions économiques sont parfaitement compréhensibles par tout à chacun, par vous, par moi, etc. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des dizaines d'années d'économie pour comprendre ça, en partant justement des concepts fondamentaux. Parce que quand on parle du travail, de quoi parle-t-on ? C'était très intéressant de voir ça, parce que le mot « travail » est un mot qu'on emploie aujourd'hui communément en mélangeant travail, emploi, etc. Or, en réalité, ce n'est pas du tout la même chose, parce que dans l'idée de travail, il y a quelque chose de, disons, la création individuelle, de la capacité à créer d'une sorte de liberté de l'individu face à ce qu'il produit. L'emploi, c'est différent, c'est la reproduction d'un protocole qu'il faut faire à l'identique et où la part de l'individu existe peu ou pas du tout. Donc, il fallait bien distinguer ces deux choses. Un sculpteur, lorsqu'il sculpte, il travaille. Une facturière qui remplit, qui toute la journée remplit des fiches, elle a un emploi. Donc, on voit bien cette chose différente. Enfin, cette chose qu'il faut différencier, pardon, et à partir de là, avec, disons, cette taxe d'entrée, rentrer dans toutes les questions de l'économie, mais les questions que nous nous posons quotidiennement, parce qu'une fois qu'on a parlé du travail et de l'emploi, il fallait nécessairement parler du salaire. Qu'est-ce que le salaire ? Qu'est-ce qui est payé à travers le salaire ? Quelle est sa fonction ? Comment se construit-il ? Qu'est-ce qui est, en fait, réellement réglé à celui qui travaille, bref, faire tomber tous les dominos. Et c'est ce que nous avons fait en essayant justement jamais de vulgariser, au contraire, de rentrer parfois dans des débats assez techniques, mais en réalité, là aussi, tant mieux pour nous, la série a été un très grand succès, et ça prouve une fois encore que lorsqu'on s'adresse intelligemment au public, eh bien, il répond intelligemment.
J'ai une petite question que nous a posée un des abonnés de QG à ce sujet. C'est pourquoi ne pas avoir interrogé Bernard Friot pendant cette série ?
Bernard, on nous a souvent posé la question et c'est vrai que Bernard Friot aurait eu parfaitement sa place dans la série. Le problème est un problème que j'ai connu dans d'autres séries que j'ai fait avec Jérôme Prieur, notamment sur Jésus et l'islam. Bernard Friot défend un point de vue très singulier, très radical et extrêmement personnel. À partir du moment où quelqu'un défend ce type de point de vue, ça suppose que tous les autres prennent position par rapport à ça. Et ça déplace le centre d'analyse du film vers une discussion avec Bernard Friot, qui serait absolument passionnante, mais qui serait d'une autre nature. Donc je pense que c'est très bien que ça suscite de la part des spectateurs l'envie de voir, de connaître, d'entendre Bernard Friot, mais il ne pouvait pas être là. De la même manière, quand nous avons tourné avec Jérôme Prieur, Jésus et l'islam, il y a un chercheur libanais qui intervient sous un pseudonyme allemand qui défend une position très très radicale comme quoi le Coran serait en fait un lectionnaire chrétien traduit en arabe. Cette position a été énormément discutée, critiquée, etc. On a essayé de voir avec lui si c'était possible, mais là aussi, c'était le même cas de figure qui le rendait impossible parce que ça devenait un film sur lui, c'était plus sur la problématique de la constitution du Coran. Et bien pour Bernard Friot, c'est la même chose.
Alors, je vous ai invité, bien sûr, ce soir pour parler du moment coronavirus du néolibéralisme. En tant qu'observateur critique du capitalisme que vous êtes, mais aussi j'aimerais avoir ce soir bien sûr votre regard sensible d'écrivain sur le changement de vie qui s'est opéré maintenant depuis 2 mois pour nous. Alors d'abord je voulais vous poser tout simplement la question, Gérard, où est-ce que vous avez vécu ce confinement ? Est-ce que vous étiez à Paris ou comme Leïla Slimani dans un manoir normand?
Vous savez, je suis un Parisien du 20e arrondissement et de Ménilmontant, du quartier de noblesse. J'ai confiné à Paris. Je suis resté à Paris, je n'ai pas bougé de Paris.
Tout va bien.
Non. Ça a été quand même un moment très très étrange et surtout une chose moi m'a beaucoup interrogé, c'est-à-dire que nous avons assisté là à un test mondial, on peut dire, de soumission à l'autorité. Les tests de 1000 grammes à l'échelle mondiale. Nous avons obéi et nous avons obéi à des ordres dont nous n'avions aucun moyen de connaître ni la justification, ni l'authenticité, ni la réalité. On a obéi simplement par une espèce de réflexe moutonnier de peur. On nous a dit « c'est terrible, il faut tous s'enfermer chez soi, s'emprisonner soi-même et ne plus bouger, rester chez vous ». Alors, bien sûr, c'était sans doute tout à fait justifié, peut-être, c'était ce qu'il fallait faire, etc. Mais ce qui, moi, m'interrogeait, c'est pourquoi a-t-on accepté si vite et au fond sans discuter, sans qu'il y ait même la possibilité de discuter si ce confinement était la meilleure voie à suivre, si on pouvait... C'était impossible de savoir parce que la propagande gouvernementale qui phagocytait absolument tous les médias ne tenait qu'un seul discours. Il n'y avait pas d'autres voix qui s'exprimaient. Et donc, les citoyens ont été privés là de toute capacité à intervenir, ont été gouvernés par la peur. Or, moi, ce qui m'interroge dans cela, c'est qu'on voit bien, et c'est facile de citer des exemples, comment cette soumission à l'autorité, pour des raisons sanitaires, devient très vite une soumission à l'autorité pour des raisons politiques. On voit bien comment se conduit aussi bien Orban, Erdogan, je faisais un mélange entre les deux, mais aussi Netanyahou. Enfin, tous les dictateurs en place et tous les apprentis ou les futurs ou ceux qui espèrent devenir dictateurs, ils ont là la preuve que l'on peut faire obéir un pays entier, on peut faire obéir la terre entière. Et ça, ça doit leur réjouir le cœur, mais à un point absolument incroyable. Et moi, c'est ça qui m'effraie, parce que je pense que derrière tout cela, derrière la situation sanitaire, et derrière aussi la crise économique qui forcément sera là, se profite d'une autre crise que je trouve alors encore plus dangereuse et plus terrible, qui est celle d'aboutir, comme ça a été malheureusement le cas dans bien des temps précédents, à la guerre, et une guerre qui ne soit pas une guerre commerciale, qui soit une guerre ouverte, une guerre militaire. Donc c'est tout ça, je l'ai vécu comme ça, dans cette inquiétude-là, sur l'évolution même de la démocratie, de notre société, et tout cela étendu au monde entier.
Alors, on va revenir à ces aspects démocratiques, à cette mise sous cloche des libertés publiques. Mais on a aussi vu un pays et un pouvoir qui, pendant le confinement, semblait découvrir l'existence et le travail de centaines de milliers de personnes, les aides-soignants, les livreurs, les caissières, comme si d'un seul coup, un peuple nouveau sortait des souterrains. Et qu'on est même venu, en tout cas pour les soignants, à applaudir aux fenêtres à 20h. J'aimerais d'ailleurs avoir au passage votre regard sur cette pratique. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, quand vous avez vu justement ces premiers de corvée et non de cordée que vous connaissez bien, vous, mis sur le devant de la scène, projetés sur le devant de la scène d'un seul coup?
Je crois qu'on a vu là tout simplement l'autre face du mépris de classe si souvent exprimé par M. Macron et ceux qu'il soutiennent. Soudain, on découvrait les gueux. Et c'était étonnant, c'était exotique, c'était incroyable. Il y avait des gens qui étaient capables de faire des choses. Il y avait des services publics avec un dévouement extraordinaire. Et donc, on voit bien que sous les belles paroles, les propos lénifiants, etc., il y a toujours cette idée de regarder ceux qui travaillent comme la basse classe, comme au fond ça n'a pas d'importance. Ceux-là, bon, ils n'avaient pas de masque, eh bien ils peuvent mourir, qu'importe, puisque de toute façon ce ne sont pas eux qui dirigent. Donc il y avait ça, et je crois qu'une des batailles qui s'annonce justement dès maintenant, dès aujourd'hui, c'est pour justement pour rendre justice à l'ensemble des salariés, parce que on est dans un pays très riche, or les salaires sont à un niveau extrêmement bas, et particulièrement bas pour les enseignants, pour tout ce qui est de l'ordre de la médecine, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, etc., pour bien entendu les vendeuses et les caissières dans les supermarchés, j'en passe, et pour les égoutiers dont on a découvert, M. Macron a découvert qu'il y avait des égoutiers, ils n'en revenaient pas, et que c'était extrêmement dangereux et pénible, mais enfin, eux n'ont pas le droit justement à la clause de pénibilité dans leur travail. Enfin bref, c'est comme, il y a quelque chose de, on se demande si c'est réellement de la naïveté ou si c'est d'un cynisme absolu de faire semblant de découvrir cette réalité du monde. C'est difficile de choisir. On se dit, c'est pas possible qu'ils soient aussi bêtes et aussi stupides. Alors, ils sont d'un cynisme total. Et c'est, je crois, moi, ça qui s'exprime, ce mépris de classe. Alors, bien sûr, on applaudissait le soir à 8 heures les soignants. Et avec Odile, avec qui je vis, nous applaudissions en hurlant « augmenter les salaires ». Parce que les applaudissements, c'est bien joli, mais ce qu'il faut, c'est augmenter les salaires. Et cette question, c'est une question qui dure depuis très très longtemps. Je pense qu'il y a facilement, on pourrait retrouver, je ne sais plus quand il était ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand, j'ai fait un débat public avec lui, où j'avais déjà posé la question des infirmières, parce que une amie qui était au renseignement généraux m'avait donné le salaire d'entrée de ceux qui devenaient policiers. Et j'avais à côté le salaire des infirmières qui, après 3 ans, obtenaient leur diplôme et devenaient infirmières. Et on voyait que les futurs policiers commençaient leur carrière à un tarif supérieur à celle des infirmières. Or, ces futurs policiers, m'avait dit mon ami, ils savent écrire leur nom et c'est tout juste, ils ne signent pas d'une croix. Et la responsabilité n'a rien à voir. Alors, j'avais mis ça sous le nez de M. Xavier Bertrand, qui m'avait fait une réponse de parfait ébéniste, en langue de bois cirée, magnifique, comme quoi il était très conscient du problème, etc., etc. Et rien n'a changé. Et là, si nous voulons que ça change, eh bien oui, il faut qu'il y ait une augmentation générale des salaires, je dis générale, mais que ça soit comme après mai 68, nous n'oublions pas, le SMIC a été augmenté de 30% et l'économie française ne s'est pas écroulée. Au contraire, on a vu un essor de ça. Donc, l'augmentation des salaires. Puis, il y a une deuxième chose, deux choses encore auxquelles je tiens beaucoup, qui est la réduction du temps de travail. Pourquoi ? Parce que, justement, puisqu'il y a de moins en moins d'emplois, réduisons le temps de travail sans baisser les salaires pour permettre à chacun d'avoir le sentiment de participer à la richesse de la nation, pas pour des raisons morales, pas pour des raisons cupides, simplement pour ça, parce que les citoyens, et on l'a bien vu avec le confinement, sont tout à fait prêts à payer de leur personne pour le bien commun. Or, en faisant cela, on permettra à chacun de travailler pour le bien commun. Et puis le troisième point qui est pour moi très important, il y a la question des salaires, il y a la question du temps de travail, et le troisième point, eh bien, c'est de rendre au service public la place qui doit être la leur. Parce que si, je ne rêve pas un monde idéal, dans une société où il y aura encore des salaires très hauts et des salaires très bas, en essayant de réduire évidemment au maximum cet écart, mais pour ceux qui ont les salaires les plus bas, pour les premiers de corvée dont vous parliez, eh bien, pour que la vie soit possible pour eux, il faut qu'il y ait des services publics puissants. Or, depuis 40 ans, le néolibéralisme n'a qu'un objectif, ruiner les services publics pour rendre l'éducation, la médecine, les transports, la poste, pour rendre tout au privé, sous prétexte que ça marcherait mieux. Il suffit de regarder l'Angleterre pour voir que ça ne marche pas du tout.
Alors, essayons de voir le côté positif, justement, notamment de ces applaudissements le soir à 20h, mais de de la prise de conscience qui a peut-être eu lieu chez certaines personnes hein, pendant cette période à part. Est-ce que vous pensez que certains des électeurs d'Emmanuel Macron de 2017 ont pu avoir une espèce de chemin de Damas pendant le confinement? Est-ce que vous pensez que le fait, par exemple, de voir que nos hôpitaux publics, dont nous étions il y a peu de temps encore si fiers, étaient en train de devenir des sortes de dispensaires du tiers-monde, est-ce que vous pensez que ça peut peser politiquement dans les années à venir?
En tout cas, je l'espère. Je pense que, notamment, une partie de l'électorat de M. Macron, parmi les plus âgés, a dû comprendre quelque chose lorsqu'on a parlé de faire le tri et de choisir ceux que l'on pouvait laisser mourir et ceux qui devaient être soignés. Je pense que ça a été quand même un choix très important. Et puis, c'est vrai que sur l'hôpital, on voit bien aussi, je crois qu'il n'y avait pas assez, enfin, malgré les manifestations, malgré les choses, je pense que beaucoup de nos concitoyens n'avaient pas conscience du degré de délabrement de l'hôpital. Chacun d'entre nous qui a eu l'expérience d'aller dans un hôpital public sait quel est le dévouement, le talent et la précision de ces gens. Et on se dit, mais c'est incroyable qu'ils ne puissent pas être rémunérés. Mais ça, c'est une idée qui a été exprimée, par exemple, par David Graeber dans la série que j'ai faite avec Bertrand Rotet. Et David Graeber disait de façon ironique, c'est extraordinaire de constater que les gens qui sont le plus utiles sont en réalité les plus mal payés, les soignants, les aides-soignantes, les profs, etc., sous prétexte qu'ils font un métier qui les intéresse et qui est passionnant, et on ne voit pas pourquoi ils voudraient être en plus payés à leur juste prix. Donc, on est dans cette situation-là, et je crois, et on voit bien aujourd'hui, même dans la majorité macroniste, que commence à y avoir des failles, parce que les mensonges accumulés, les erreurs commises. Enfin, bien entendu, face à une telle situation, je ne veux pas dire il fallait faire ci, il fallait faire ça. C'était évidemment compliqué. Mais en tout cas, il aurait fallu ne pas mentir. Or, il n'y a eu que ça. Le pompon étant évidemment la porte-parole du gouvernement, qui là aussi finira par devenir un sketch. Mais bon, ces mensonges-là, je crois que ça finit par quand même toucher une large part de la population et que les gens comprennent qu'on essaye, pour le dire simplement, de leur vendre des savonnettes. Regardez, il y a eu récemment à la télévision, hier ou avant-hier, une interview de M. Macron disant avec assez d'embarras, assez de compliments, enfin bon, mais là, il n'y a jamais eu, non, il n'y a jamais eu de manque de masques, on a géré ça pour. Enfin, je veux dire, comment on en vient à ça? Comment on n'est pas capable d'affronter ce qui est le réel? Comment on est toujours dans ce monde imaginaire? Mais je crois que ça vient toujours aussi là, du même problème de classe. Ces gens sont tout simplement des bourgeois qui ignorent tout du monde et qui pensent que tout le monde doit leur ressembler. Et ceux qui ne leur ressemblent pas, au fond, ils les méprisent et ils préféreraient s'en débarrasser. Donc, espérons que une part de conscience politique se sera glissée dans le confinement, que les gens auront compris l'intérêt et l'importance et la nécessité de porter au plus haut les services publics et que nous parviendrons, non pas du jour au lendemain, mais que nous parviendrons à un changement qui sera conséquent.
Alors, dans la série documentaire dont je parlais tout à l'heure, hein, Salaire, Travail, Profit sur Arte, vous montrez bien à un moment donné qu'il y a de grandes crises mondiales qui favorisent certaines prises de conscience. Par exemple, la crise de 1929 avait discrédité le marché boursier pour un long moment et sonné l'heure d'une réhabilitation de l'intervention publique, de la planification, de la régulation, etc. Bon, cette crise, évidemment, que nous sommes en train de vivre n'y ressemble pas, mais est-ce que vous pensez néanmoins, là encore politiquement, que ce type d'effet bénéfique peut être observé?
J'ai envie de dire que, à ma place, modestement, j'y travaille, parce qu'il n'y a pas d'autre voie à mes yeux que justement revenir à ces questions fondamentales de la régulation, de la planification. Mais d'ailleurs, la planification qui est honnie par tous les néolibéraux, on voit bien qu'elle existe dans la société et de façon très puissante. les compagnies d'aviation, la SNCF, les constructeurs automobiles travaillent avec un plan. Ils ne travaillent pas selon les aléas du marché. Ils travaillent avec un plan. Donc, il est nécessaire d'avoir cette pensée-là, de faire ça. Et c'est vrai que on a entendu des choses qui semblaient là aussi avoir changé dans l'esprit de certains responsables politiques qui disaient bah oui, finalement, il faut peut-être en passer par là. Alors moi, je me méfie quand même de ces choses qui sont très souvent des effets d'annonce et qui ne sont suivis d'aucune sanction, d'aucune manière. Rappelons-nous qu'après la crise de 2008, on a dit plus jamais ça, plus de paradis fiscaux, c'est fini, plus de spéculation, etc. On a mis des milliards pour sauver les banques. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Bien, dès le lendemain matin, ils ont recommencé au casino boursier. Donc, ce qu'il faut, c'est penser qu'aujourd'hui, il n'y a finalement que l'expression populaire, l'expression de l'intelligence populaire, de sa force, qui contraindra, parce qu'aucun des responsables politiques aujourd'hui, financiers ou économiques, donnera les clés de la maison simplement par conscience ou par morale. Donc, il va falloir qu'il y ait une contrainte. Je crois, on voit, je ne sais plus qui m'a cité un sondage du Figaro, dans le Figaro, mais où va la France, que seulement 22 ou 25% des Français faisaient confiance au président de la République, au gouvernement, etc. Ce qui veut dire que 75% ne lui faisaient pas confiance. C'était ça qui était intéressant. Et donc, comment refonder, parce qu'il va falloir refonder. On est à un moment d'un tournant, comme il y a des tournants historiques. 89 a été un tournant historique, 45 a été un tournant historique. On est à un tournant historique, il ne faut pas se le cacher. Alors, on peut aller dans le décor et recommencer en pire comme avant, ou on peut justement retrouver quelque chose qui soit de l'ordre, et bien tout simplement de la justice, de l'ordre et de la morale.
Alors, pendant le confinement et depuis le déconfinement en cours, c'est vrai qu'on a vu un nombre très important de gens, de politiques, d'intellectuels, d'économistes caresser l'idée d'un fameux jour d'après tout à fait neuf dans lequel nos gouvernants deviendraient progressivement décroissants, écolo-responsables et remettraient le travailleur au centre de l'économie. Pour en rester à la situation française, parce qu'elle est déjà suffisamment complexe en soi, est-ce que vous pensez que quoi que ce soit peut se passer d'ici 2022 de décisif ?
Je pense que la chose qui risque de modifier la donne politique, ça va être d'assister ou non à des émeutes de la faim. Parce qu'on voit que dans les quartiers les plus défavorisés, la situation est absolument dramatique, catastrophique pour les populations qui vivent là. J'ai une amie qui est une actrice qui est bénévole au Resto du Cœur à Saint-Denis, qui, avant la fin du confinement, m'avait envoyé un message avec une photo en me disant « Aujourd'hui, la queue fait le tour du pâté de maison ». Le tour du pâté de maison, je ne sais pas combien ça représente de personnes. Et donc, j'ai parlé avec elle et elle me disait, mais il y a une tension énorme. Et bien entendu, il y en a qui sont prêts à prendre les barres de fer et les battes de baseball et de descendre pour prendre tout ce qu'ils n'ont pas. Donc, on va bien voir s'il va y avoir à ce moment-là quelles seront les mesures qui seront prises pour aider ces populations, s'il y en a qui sont prises. Et si elles ne sont pas prises, je crains à ce moment-là qu'il y ait de vrais débordements absolument incontrôlés de gens qui simplement n'ont plus rien et qui sont désespérés. Et là, ça changera la donne politique. Sans ça, si on rentre à nouveau dans le ronron politique avec l'opposition plus ou moins, avec le jeu des partis, etc., je pense que tout s'annulera. Il y aura des mesurettes qui seront prises, il y aura des discours, il y aura des choses, mais les uns et les autres se diront « attendons le jour magique de 2022, de l'élection présidentielle ». Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je ne vois pas comment les gens qui nous ont conduits là pourraient aujourd'hui être capables de nous conduire tout à fait autrement et selon une logique, une pensée absolument différente. Ils sont sur des rails idéologiques et intellectuels dont, à mon avis, ils ne sortiront pas parce que M. Macron étant l'exemple absolument parfait de ça, capable de dire tout et n'importe quoi dans un discours, avec beaucoup de démagogie et de conviction. Mais je ne vois pas comment, d'un seul coup, on pourrait remettre le travailleur au centre de ça. Comment le remettre ? Eh bien, c'est ce que je disais tout à l'heure, augmentons les salaires, abaissons le temps de travail et rendons au service public la place qui leur revient.
Mais est-ce que vous parliez à l'instant, Gérard, d'émeute de la faim ? Est-ce qu'on ne pourrait pas lire tout l'épisode des Gilets jaunes, finalement, comme une émeute de cet ordre, hein. On l'a vu pour ceux qui sont allés sur le terrain, on a vu des gens qui parfois ne mangeaient seulement un jour sur trois, des situations sociales extrêmement difficiles comme le reste de la population petite bourgeoise ne le devine absolument pas. Et pourtant, ce mouvement-là s'est brisé contre l'ordre, les gens d'ordre. Et finalement, M. Macron est sans doute très coupable, mais il est soutenu par un bloc de population qui l'est tout autant que lui dans cette affaire.
Oui, parce que là aussi, par rapport aux Gilets jaunes, la propagande a réussi à faire peur, à dire voilà, regardez, ils cassent tout, ils volent tout, etc. Mais si on veut se rendre compte de ce qu'étaient en profondeur les Gilets jaunes, il faut voir le film de Gilles Perret et François Ruffin qui s'appelle « Je veux du soleil ». Parce que ce n'est pas du tout un film revendicatif. C'est un film qui montre ce qu'est la misère contemporaine, et notamment la misère pour les femmes. C'est quelque chose, on a envie de dire, mais les membres du gouvernement, il faudrait les attacher et les forcer à voir ça. Ils voient la réalité en face. Ils ne la voient pas, ils l'ignorent. Et donc, les Gilets jaunes se sont heurtés, bien entendu, à la force publique, et puis ils sont aussi heurtés à une question interne, j'ai envie de dire, qui est la nécessité de l'organisation. Quand je voyais, bon, au départ, ils étaient très hostiles aux syndicats, très hostiles aux partis politiques, etc. Donc, c'est un peu parti chacun de son côté. Et à un moment, quand même, je me souviens d'un débat avec une vingtaine de Gilets jaunes que j'ai fait à Marseille, ils se sont posés la question de l'organisation. Et en pensant à l'histoire, je me souvenais d'un texte que j'avais lu qui relatait une rencontre entre Lénine et Makhno, sans doute Makhno qui était ce grand révolutionnaire ukrainien, anarchiste, etc., et qui justement déniait à Lénine le fait d'être capable d'organiser quoi que ce soit. Et Lénine, au contraire, lui expliquait que sans organisation, il n'y aura rien qui ne pourra se passer. Ben, on était dans cette problématique avec les Gilets jaunes parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même la nécessité d'avoir une réflexion commune, de pouvoir se manifester comme, non pas peut-être comme une seule voix, mais en tout cas comme un seul mouvement. Et d'un côté, il y avait les forces de l'ordre et de l'autre côté, il y avait leurs forces par trop désordonnées qui n'arrivaient pas à réellement synthétiser les choses. Et c'est pour ça que j'ai trouvé si fort le film de Gilles Perret et de Ruffin, parce que soudain, on les voyait en face et on voyait quelque chose de très très fort sur la pauvreté, ce que vous racontiez. On voyait une femme qui, par exemple, travaillait comme bénévole pour obtenir des bons au loto qui lui permettaient d'avoir à manger. Un jeune couple qui les deux travaillaient, or c'était quand même la grand-mère qui remplissait le frigo. On voit là une pauvreté terrible parce que ce n'est pas la pauvreté en haillons et les pieds nus comme M. Télérama, non, c'est la pauvreté d'aujourd'hui, celle qui s'habille comme vous et moi, mais qui n'a rien, qui essaye de garder sa dignité, mais qui en réalité n'a plus rien. Et ça, bien sûr, les Gilets jaunes, ça fait partie des grands mouvements qui ont eu lieu contre la réforme du Code du travail, contre la pseudo-réforme de la retraite, contre enfin, toutes ces choses-là qui sont l'expression du néolibéralisme qui est… dans notre série, on faisait un petit historique à un moment du néolibéralisme et c'est intéressant de rappeler ça parce que le néolibéralisme en tant que tel est théorisé tout de suite en 1945 par Hayek et les gens du Mont Pèlerin. Je vous rappelle Hayek qui était un économiste autrichien dont la plus célèbre phrase est « Je préférerais toujours une dictature qui soutient le marché contre une démocratie qui le récuse ». Bon, ça, c'était en place 45, etc. Mais ça arrive vraiment avec l'assassinat d'Allende, la prise du pouvoir par Pinochet au Chili, et dans le mouvement, l'arrivée des Chicago Boys, les théoriciens du néolibéralisme. Et puis ensuite, bien sûr, il y aura Thatcher, il y aura Reagan, et puis il y aura les suivants. Et en France, il y aura malheureusement le trio maudit, Sarkozy, Hollande, et maintenant Macron. Et donc, leur seul objet, c'est de ruiner le bien commun au profit du profit individuel. C'est ça le néolibéralisme, c'est pas autre chose, et c'est évidemment une idéologie tout à fait meurtrière pour les individus et pour l'ensemble des sociétés. D'ailleurs, ça ravage tout, on voit bien les ravages écologiques, les ravages climatiques, et je le dis encore une fois, la possibilité de ravages guerriers, parce que derrière cette défense absolue du profit, il y a toujours le spectre de la guerre qui apparaît.
Alors, on était sur la situation politique française il y a un petit moment. Hein. On se demandait ce qui pouvait se passer d'ici l'élection présidentielle de 2022. Il est manifeste que, on l'a vu hein, dans les tribunes qui sont sorties depuis quelques jours après le déconfinement, le vote vert, le vote écologiste sera absolument décisif dans la recomposition de nouveaux blocs historiques. La thématique écologiste offre, de mon point de vue, une formidable occasion à toute une gauche qui a failli depuis une trentaine d'années de se refaire une virginité et, par le biais du greenwashing, de redevenir un produit politique à peu près présentable. Quel est votre point de vue à ce sujet, Gérard, et comment contourner justement cette nouvelle imposture qui se profile ?
Je crois que l'écologie ne doit surtout pas être un point de vue en soi, parce que si c'est l'écologie, pour la défense de l'environnement, de la biosphère, etc., bien sûr c'est intéressant, mais ça n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il n'y a d'écologie que si la question sociale est réglée, parce que c'est la question fondamentale, la question des femmes et des hommes qui vivent ici. Ça, c'est aider leurs conditions de travail. Donc, je crois qu'on ne peut pas déboîter la question écologique de la question sociale, et que c'est vrai que dans les débats qu'on a pu avoir avec certains écologistes qui ne veulent pas entendre parler de ça, qui ne veulent pas entendre parler de travail, pas entendre parler de salaire, pas entendre parler de ça, il y a là une vraie séparation, une vraie faille, parce que moi, je crois que le principe profond, c'est justement de rendre à une majorité des moyens d'existence décents, et que c'est le point de départ. Ces moyens d'existence décents, eh bien, s'accompagnent, s'ajoutent à des moyens d'existence décents sur le plan sanitaire, écologique, etc. Donc, je crois qu'il ne faut pas penser que l'écologie, en tant que drapeau, peut-être un tout à fait fédérateur, mais il n'est pas suffisant de défendre ces points de vue-là pour transformer la société dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, je ne vois pas comment on peut être écologiste et défendre l'économie de marché. C'est pour moi impensable. C'est l'oxymore parfait, c'est le nazi sympa ou le syndicaliste réformiste. C'est la même chose, quoi. C'est impossible. Donc, il faut commencer par cette critique du néolibéralisme et de ses ravages meurtriers. Et ensuite, là, bien entendu, la question écologique a toute sa place. On ne peut pas vouloir les deux choses en même temps.
Bon, vous ne voterez pas pour Yannick Jadot, si je vous entends bien.
Non. Non.
Alors, vous non, avez...
enfin, oui. Yannick Jadot est un, il n'y a pas que lui, parce que je suis en contact aussi avec d'autres militants écologistes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce point de vue-là et qui partagent plutôt mon analyse.
Bien sûr. Alors, vous avez lancé une initiative après le déconfinement, une sorte de nouveau conseil nationale de la résistance. Est-ce que vous pouvez nous décrire le projet et nous parler des personnes qui en sont membres?
L'idée est partie entre amis de se dire, oui, il y a la nécessité, là encore, d'une sorte de refondation. Et donc, repartons de l'exemple du CNR. Parce que ce qui est extraordinaire dans le CNR, c'est comment ces hommes et ces femmes qui avaient en commun d'avoir participé à la résistance de façon plus ou moins active, et qui en même temps avaient des points de vue très divergents, parce qu'il y avait les gaullistes, il y avait les communistes, mais il y avait aussi les socialistes, et il y avait aussi le MRP, les chrétiens, etc. Ils ont réussi à travailler ensemble et à construire ce programme qui s'appelait « Les jours heureux ». C'est-à-dire, ils ont accepté de discuter, parce que là aussi, il ne faut pas avoir une vision idéale de la résistance. Ceux qui étaient autour de la table ont combattu les nazis, mais ils se sont aussi combattus entre eux, entretués. Il n'y a pas de choses comme ça. Donc, on s'est dit, c'est très important aujourd'hui de pouvoir manifester quelque chose de cet ordre avec des personnes dont la légitimité repose sur leurs travaux, bien entendu, leur domaine de compétences, leur expérience, mais aussi, bien entendu, leur engagement contre ces ravages du néolibéralisme. Donc, nous avons suscité la création d'un nouveau conseil de la nouvelle résistance pour réfléchir à des principes, pour se dire, voilà, quels sont les principes que nous voulons voir aujourd'hui gouverner la société. Et nous travaillons à essayer de les produire pour le 27 mai. Alors, dans le Conseil, eh bien, il y a des gens très différents. Vous avez Jean-Marie Haribet, qui est fondateur d'Attaque. Vous avez Olivier Favreau, qui, lui, travaille avec les Bernardins. Vous avez Daniel Linard. Vous avez Dominique Méda. Vous avez Dominique Rousseau, qui est un constitutionnaliste. Vous avez Antoine Comte, qui est avocat. Enfin, bref. Des gens très différents les uns les autres, mais qui ont accepté ce pari un peu fou de réfléchir à définir des principes. Et donc, voilà, c'est un mouvement qui est un mouvement forcément politique, mais politique au sens premier, hein, qui concerne la cité, avec pour seule légitimité l'envie d'intervenir. C'est pas du tout, on dit pas, on va pas donner des ordres, on va pas publier une déclaration définitive. Au contraire, on va, en publiant, en faisant cette déclaration de principe, j'espère que nous allons susciter un retour très important, aussi bien alors qu'on est en dehors des partis politiques et des syndicats, mais qu'on va susciter un retour très important des partis politiques, des syndicats et surtout de toute la population, parce que on a, quand on a lancé le CNR, d'un seul coup, d'ailleurs on est un peu débordé, tellement on reçoit de propositions de gens qui veulent en être, qui veulent y participer, etc. Donc on va créer des comités locaux, etc. Puis on va faire remonter complètement quelque chose qui va finalement, au bout du compte, constituer un programme politique, mais pas un programme politique pour un parti ou un programme politique, non, qui va être une réflexion, je l'espère, qui sera l'émanation de cette intelligence populaire que j'admire tant et que j'ai vue à l'œuvre aussi bien au Larzac que chez Lippe ou encore au moment de la discussion sur le projet de constitution.
Donc c'est ça. Tout de même, Gérard, vous parliez à l'instant justement en termes de force politique de l'exemple du Conseil national de la résistance, hein, et on sait qu'il regroupait des communistes, des gaullistes, des gens très à droite parfois, hein, des gens de l'Action française. Bon. Là, si j'entends la liste que vous venez d'énoncer, on est plutôt sur de la gauche altermondialiste, finalement. Voilà. C'est une question, c'est pas une critique. Est-ce qu'il est possible de aujourd'hui, justement, de faire alliance avec une droite gaulliste, si tant est qu'elle existe encore. Et est-ce que vous êtes aussi dans la recherche, dans une recherche authentiquement transpartisane à cet égard?
Je l'espère. C'est-à-dire qu'aucune des portes n'est fermée. Bien entendu, je sais pas, je pense à une intervention que j'avais vue, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Madame Dubas, d'une députée En Marche qui avait produit pendant le confinement une intervention extrêmement critique sur à la fois la façon de fonctionner de ce parti, mais surtout de ses options politiques. Donc voilà, c'est quelqu'un sans doute avec qui on peut parfaitement travailler. Il n'y a pas, je crois pas qu'il y ait d'exclusif de ce côté-là. Vous savez, le CNR historique, Gilles Perret nous rappelait que, par exemple, ils avaient eu beaucoup de mal à trouver des gens de droite qui n'avaient pas collaboré. Ça a été un grand travail pour les trouver, mais ils tenaient à en avoir, ils en ont trouvé. Et bien sûr, il y avait une résistance de droite, même d'extrême droite, avec Bénouville. Avec
Daniel Cordier venait de la droite, de l'extrême droite.
Mais Bénouville, Mitterrand, etc., appartenaient à ce côté de la droite, voire de l'extrême droite, qui était résistante, mais qui n'était pas gaulliste et qui n'était bien sûr pas communiste. Donc, il y a ça, il y avait ces combats aussi qui existent. Eh bien, il faut au bout d'un certain temps être capable, justement, de faire des concessions et de se dire que l'intérêt commun, le bien commun, est la seule chose à viser et à obtenir. Et donc, je crois que ce que nous allons essayer de construire, c'est ça, c'est de se dire, c'est pas une chose unanimiste, on va évidemment recevoir autant de critiques que d'adhésions, mais c'est de montrer qu'en tout cas, c'est possible, et c'est possible, surtout sur le terrain du droit et sur le terrain de la pensée. Parce que là aussi, nous parlions tout à l'heure de comment j'avais vécu ce confinement. Je dois dire que j'étais assez accablé, d'ailleurs nous n'écoutions plus jamais de radio et encore moins de télévision, d'entendre que finalement il n'y avait que des slogans et des ordres, et que où était la pensée, où était la réflexion, où était le recul sur ce que nous vivions, nulle part. Moi je crois qu'il est très important de redonner au public la possibilité de s'exprimer et de s'exprimer intelligemment en lui disant bien, vous êtes aussi intelligent que nous le sommes, eh bien, partageons cette intelligence et faisons quelque chose ensemble.
Alors là, on vient d'évoquer quelques-unes des initiatives hein, des adversaires politiques du gouvernement. On peut peut-être évoquer maintenant les initiatives du pouvoir lui-même, hein, puisque ça y est, ça commence à se dessiner, et malheureusement pas dans le meilleur sens. On a vu donc hier Emmanuel Macron et Angela Merkel annoncer à grand roulement de tambour voilà, une relance, un plan de relance de 500 milliards d'euros hein, pour l'Union européenne. Bon, évidemment, en regardant dans le détail, on voit que ce plan de relance s'appuie sur un engagement de la part des États membres d'appliquer des politiques économiques, je cite, « saines » et un programme de réforme ambitieux. Donc voilà, c'est reparti. Sur les politiques d'austérité décrétées unilatéralement par l'Eurogroupe. Là, je m'adresse aussi à l'auteur de Salaire, Travail, Profit. Tout ça ne sont pas bons.
Voilà, là, on est dans ce que j'appelle le pire, quoi. Voilà. Et on voit notamment l'Europe. Enfin, je suis toujours étonné de voir qu'on puisse être étonné justement de détester l'Europe. Mais l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est détestable, elle est insupportable. Et les choix économiques qui sont faits, on a vu avec la Grèce avec quelle violence et quel mépris là aussi de toute démocratie et des peuples, ces choix sont faits simplement pour servir le monde de la finance. Bon, là, ce qui se présente, c'est typique. Et d'ailleurs, j'entendais ce matin M. Jadot, justement, qui lui faisait les comptes autrement et disait non, c'est très bien, alors 500 milliards, mais ce n'est pas 500 milliards qu'il faut, c'est 5000 milliards si l'on veut réellement relancer les choses. Donc, on voit bien que là aussi, les choix qui sont faits sont des choix pour défendre toujours la même catégorie de financiers et d'investisseurs, et jamais des choix qui sont faits pour les populations. Donc, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si dans les pays de l'Union européenne, il y avait des référendums dans chacun des pays, le non à l'Europe serait majoritaire partout, parce que les décisions qui sont prises sur le plan économique et sur le plan financier sont évidemment criminelles au regard de la situation dans ces mêmes pays. Et je ne parle pas du terrain politique où l'on accepte des choses absolument inacceptables vis-à-vis de la Hongrie, vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de... C'est absolument scandaleux, ça me fait à chaque fois bondir de voir cette incapacité de l'Europe à agir. Alors que l'idée européenne en soi est une idée magnifique, elle est totalement pervertie par l'idéologie néolibérale et encore une fois, cette quête insensée du profit et ce pur mensonge qui est que plus il y aura de riches, plus ça ruissellera vers les pauvres. On sait bien que c'est une farce totale et que notamment aucun des chercheurs et des chercheuses auxquels nous nous sommes adressés n'a jamais parlé de ça, sinon pour ricaner.
Est-ce que vous n'êtes pas frappé à cet égard de voir que, aussi bien chez les intellectuels critiques français que dans les partis politiques de gauche, cette question de l'Union européenne reste un tabou, un verrou puissant du débat, et qu'il est, il est très très difficile de parler, je parle même pas, même sans aller jusqu'à la sortie de l'euro, mais de renégociation vraiment de fond des traités européens.
Oui, mais parce qu'il faudrait là un courage de rupture qui n'est pas à l'ordre du jour. Chacun pense par-devers soi qu'on peut s'arranger. Moi, je ne pense pas qu'on puisse s'arranger. Je pense que il n'y aura pas de renégociation des traités européens s'il n'y a pas la décision de rompre avec ces traités et donc de dire « nous ne les respecterons plus ». Voilà, et nous, à ce moment-là, quitte à créer une crise en Europe, mais pour repartir sur autre chose. Sans ça, si on reste dans ce cas de figure et dans ces éléments-là, je ne vois pas comment on pourra en sortir. On ne pourra pas en sortir parce qu'on est pieds et poings liés. Alors, c'est vrai, il y a toujours la même objection, c'est « mais on ne peut pas faire ça dans un seul pays, il faudrait que tout le monde le fasse ». Mais moi, je ne crois pas du tout à cette objection parce que, quitte à faire rire tout le monde, moi, je pense toujours que quand il s'est agi d'abattre la monarchie en 89, bien, ça paraissait absolument impensable. On ne voyait pas comment un autre système pouvait exister que la monarchie. Et pourtant, ça s'est fait. Et ça s'est fait d'abord dans un seul pays, la France. Et puis après, ça s'est fait partout. Bien, je crois que par rapport à l'Europe, on est dans la même situation et qu'il faut que les partis de gauche en France, ait le courage de cette rupture, d'une rupture violente, définitive, avec ça, et d'exprimer cette rupture, de dire « nous ne pouvons plus, nous ne voulons plus, et il n'y aura pas de renégociation, il faut briser les traités, parce que si on veut renégocier, c'est toujours la même chose, on discute de tel alinéa, etc., et ça ne change rien. Les traités tels qu'ils ont été votés sont des traités qui sont tout simplement mauvais. Et le fait que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, agisse sans aucun contrôle démocratique et uniquement au regard des intérêts financiers, d'abord de ses propres intérêts en tant qu'institution, mais ensuite des intérêts financiers des pays, et notamment de l'Allemagne et de la France, c'est quelque chose de scandaleux. D'ailleurs, moi, ça m'a toujours fait plaisir et ça m'a toujours fait sourire de voir que le premier président s'appelait M. Trichet, ça ne s'invente pas, et que maintenant, ils avaient mis un M. Draghi, M. Dragon, encore une merveille totale. Je veux dire, les mots ne mentent pas. Donc, on le sait, c'est devant nos yeux. Eh bien, il faut rompre avec ça, il faut casser ça, et il faut oser le dire et oser le défendre dans un programme politique. Il ne faut pas dire...
Oui, cette position que vous êtes en train d'exprimer... justement et extrêmement fermement, aucun parti politique aujourd'hui n'ose la porter. Même le diable Front National, enfin nouveau Rassemblement National, est sorti de cette position depuis la dernière présidentielle. Comment expliquez-vous ça ?
Je crois qu'on est là tout simplement dans la problématique de l'élection. C'est-à-dire que les uns et les autres se disent, il y a une grande partie des Français, de la petite bourgeoisie française, qui pourtant a été la grande victime de ces choix, qui craint, encore une fois, c'est toujours la même chose, toujours la peur, qui craint d'avoir des positions radicales ou tranchées nous amène à des catastrophes plus grandes encore. Je crois que c'est ça, et que c'est la trouille qui gouverne. Eh bien, cette trouille, elle mène, alors là, à coup sûr, à des catastrophes, parce que c'est le manque de courage politique qui mène à des catastrophes. C'est pas les choix. Je veux dire, on pouvait être extrêmement critique de l'action de De Gaulle, mais en même temps, il a été capable de faire des choix et de les assumer, et de les assumer jusqu'à quitter le poste qu'il occupait lorsqu'il a été désavoué. Donc, une sorte de rigueur intellectuelle et morale qui pourrait servir d'exemple à bien des politiciens aujourd'hui. Parce que le fait qu'on n'ose pas, etc., c'est parce qu'on se dit qu'il faut ménager la fameuse chèvre et le fameux chou, mais ça n'existe pas. Je veux dire, là, on est dans une situation où il ne faut plus ménager qui que ce soit. On voit bien que l'Europe a été construite sur le modèle ordo-libéral allemand, finalement, l'euro, c'est une sorte de Deutschmark améliorée, et qu'on est toujours dans, finalement, cette prison-là qui ne nous permet pas ni de nous endetter, ni de nous développer, ni d'investir où on devrait investir. Et surtout pas, alors que c'est là pour moi le nerf de la guerre, sur l'augmentation générale des salaires.
Alors là, vous faisiez allusion à l'éthique de nos gouvernants, à leur absence d'éthique plus exactement, et au fait qu'ils ne se soient pas confrontés aux urnes, hein, en dépit d'une opinion très hostile depuis maintenant des années. Moi, ce que je trouve très frappant dans la période actuelle, c'est la destitution totale de la valeur de la parole publique. À chaque crise, les gilets jaunes, puis le Covid, Monsieur Macron vient nous dire que tout sera, qu'il va changer, que tout sera différent le jour d'après, etc. Et tout recommence en pire. Le discours n'a plus aucune valeur. Les primes promises ne sont même pas versées. Le discours sur les masques a été une succession de volte-face que chacun a pu observer parfois sur des intervalles de temps extrêmement rapprochés. Est-ce que selon vous, qui avez un peu de recul hein, en matière de politique française, est-ce qu'on a déjà atteint dans l'histoire de la Ve République un moment Orwell aussi frappant ?
Je ne crois pas. Je crois qu'on est là vraiment à une sorte de sommet. On ne dit pas. Enfin, il y en a hélas sans doute d'autres, mais celui-là est un sommet parce que c'est vrai que le problème, c'est que la pensée a été remplacée par la communication. Donc, on communique et la communication, c'est de l'ordre de la publicité, du slogan, du jingle, etc. Et au fond, on fait comme si les mots n'avaient aucun sens. Ils n'ont de sens et de vérité que sur l'instant où ils sont dits, et après ça peut être tout à fait autre chose. C'est ça qui est effrayant, parce que c'est vrai que quand on repense à De Gaulle, mais même à Pompidou, c'est des hommes qui réfléchissaient quand même et qui étaient capables d'avoir une pensée structurée et de défendre des points de vue que l'on pouvait combattre, mais en tout cas qui avaient une légitimité intellectuelle. Or aujourd'hui, il n'y a plus ça du tout. Il y a au contraire le côté totalement superficiel et vain de la déclaration qui doit faire la petite phrase qui passera en boucle ensuite dans toutes les télévisions. Et ça, c'est ça aussi pour ça que nous nous battons avec le CNR, c'est-à-dire remettons de la pensée, remettons de l'intelligence, n'ayons pas peur de réfléchir à ce que doit être la société dans 2 ans, 3 ans, etc. On sait bien que ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais cette réflexion-là, nous devons la partager le plus largement possible et nous devons faire confiance, encore une fois, à tous ceux qui sont les citoyens de ce pays. Et cette confiance-là n'existe plus, parce que dans le discours de M. Macron, il y a bien entendu le mépris, et puis il y a aussi cette idée infantilisante que nous ne conduirions pas comme il faut, et donc il faut nous punir ou il faut nous menacer, et surtout il faut nous faire peur. Et donc, c'est ça qui est affreux, parce que à partir du moment où il y a un tel rouleau compresseur médiatique, c'est très difficile de combattre ces idées, parce que le travail que vous faites est un travail tout à fait singulier à l'intérieur du champ médiatique, parce que se dit et se pense et s'exprime autre chose. C'est pas pour autant que ce qui se dit, se pense est la vérité, mais c'est autre chose. Ça permet la réflexion, parce que pensons au Talmud. Le Talmud, Rabbi Shammai dit ça, Rabbi Hillel dit exactement le contraire, et les deux sont conservés parce que la vérité est la confrontation entre les deux points. Moi, j'en suis tout à fait dans ce type de problématique.
Merci beaucoup, Gérard, pour cette heure d'entretien. Je rappelle vos différentes actualités. Donc, avant tout, la grande série en 6 épisodes, travail, salaire, profit, que chacun peut trouver sur le site d'Arte en VOD ou en DVD. Et puis, votre dernier livre paru, Quartier de noblesse, aux éditions du Sonneur. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que plus que jamais, vous l'aurez compris, la bataille de l'information 100% indépendante est précieuse. Celle-ci ne peut être remportée sans votre concours. Pour nous soutenir, pour découvrir nos programmes, nos émissions, nos tribunes, nos articles, vous pouvez vous rendre sur le site qg.media. Et nous soutenir bien sûr par l'abonnement selon vos revenus à partir de 5€ par mois. Je vous dis à tous à bientôt pour un prochain Quartier Libre. Merci Gérard Mordillat. Au revoir.
Merci.